C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libre la nation.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faut reste groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Groupir!
Faut aller en bas.
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Mais sire!
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la percée de l'histoire. Deux fois consécutives que nous commençons à l'heure, c'est inattendu, inespéré et pourtant, comme quoi, le Père Noël existe peut-être. Et en parlant de Père Noël, nous retrouvons le talentueux et le grand, le magnifique Salouane. Bonjour Salouane.
Bonsoir, comment tu vas?
Ça va et toi?
Ça va très bien, je vois pas trop le lien avec le Père Noël mais...
Non, parce
on est là.
Tu arrives comme un cadeau.
D'accord, ok.
Tu n'étais pas mardi dernier.
Oui, c'est vrai.
Parce que tu travailles. Enfin,
voyez, nous avons des vies de fous.
Il fait 48 heures sur 24, c'est pour vous dire. Et là, le voilà.
Oui.
Comme un cadeau au pied du sapin. Donc ça va, ta semaine s'est bien passée?
Oui, tout va bien. Beaucoup de travail.
Bah oui, j'imagine.
Le moulin tourne à plein régime.
Bah voilà, c'est presque ça. Quoi.
Mais ouais, on est là. Hein.
On est là.
Comme disent les Jones.
Tout à fait. Et les Jones se demandent bien sûr qu'est-ce qui va se passer ce soir. Eh bien, d'abord, le journal historique, évidemment. Ensuite, Salouane nous parlera d'un inventeur super génial que même les plus grands inventeurs ne peuvent pas dépasser. Et quant à moi, je terminerai cette petite émission en vous parlant d'une place bien connue au Mans, mais je n'en dis pas plus, évidemment. Vous connaissez la chanson. Eh bien, tout de suite maintenant, ça va être l'heure du journal historique, donc. Et alors, Salouane, que se passe-t-il en ce 28 mai? Beaucoup de choses, hein, on voyait.
Oui, beaucoup de choses en ce 28 mai dans l'histoire. Alors évidemment, je vais en choisir que quelques-unes, que quelques événements. On va commencer avec le 28 mai 1291, le Moyen-Âge, bien sûr. Le XIIIe siècle, la fin du XIIIe siècle, c'est une période que... Voilà quoi.
Tu affectionnes.
Oui. Les croisés chassés de Terre Sainte. Le 28 mai 1291, en Palestine, c'est 200 000 hommes du sultan El-Ashraf Khalil qui réduisent les défenses de Saint-Jean d'Acre, malgré la résistance des Templiers, groupés autour du grand maître Guillaume de Beaujeu. Saint-Jean d'Acre était l'ultime bastion de ce qui fut le royaume franc d'Orient. Sa chute met un point final à l'épopée des croisades presque deux siècles après l'appel du pape Urbain II. On fait un énorme saut dans le temps, on passe en 1848. Le 28 mai 1848, à la faveur des révolutions qui bouleversent l'Europe, les représentants du peuple allemand, élus au suffrage universel, se réunissent en Assemblée nationale le 28 mai 1848 à l'église Saint-Paul de Francfort et décident de restaurer sous une forme constitutionnelle l'Empire dissous en 1806, le Premier Reich. Il constitue un gouvernement fédéral provisoire, confié à un archiduc autrichien de tendance libérale, puis publie une déclaration des droits fondamentaux, d'inspiration également libérale. En janvier 1849, il se prononce pour le maintien des États existants et la constitution au-dessus d'eux d'un empire fédéral avec un souverain et un parlement élus. Le 28 mai 1871. Fin sanglante de la Commune. Au terme de la semaine sanglante, la Commune de Paris n'existe plus. Au prix de plusieurs dizaines de milliers d'exécutions et d'arrestations, Adolphe Thiers peut se flatter d'avoir débarrassé le pays de la « question sociale », entre guillemets. Celle-ci sera en effet absente de la scène politique française jusqu'en 1936. Le 28 mai 1926, le général Gomes de Costa commet un énième coup d'État à Lisbonne, capitale du Portugal. Il met fin au régime parlementaire et instaure une dictature militaire. Celle-ci se consolide avec l'arrivée, en 1928, d'Antonio de Oliveira Salazar, un professeur d'économie politique de 39 ans, au poste de ministre des Finances. Enfin, le 28 mai 1940, La Belgique capitule après une résistance héroïque. Suite à l'invasion de la Belgique par la Wehrmacht, le 10 mai 1940, la résistance militaire devient rapidement inutile, de l'avis même des chefs alliés. Le roi Léopold III, qui n'a pas voulu suivre son gouvernement à Londres, signe donc la capitulation de son armée le 27 mai à 23h. Et pour ce dernier événement, le 28 mai 1996, fin de la conscription en France. Le 28 mai 1996, le président de la République, Jacques Chirac, annonce la fin du service militaire obligatoire au détour d'une, d'une allocution télévisée. Sa décision est spontanément approuvée par les éditorialistes, la classe politique et l'opinion publique. Elle est officialisée par la loi du 28 octobre 1997 qui suspend la conscription mais réserve la possibilité de la rétablir en cas de crise grave menaçant l'existence de la nation. Voilà.
Merci beaucoup, Salouane, pour tous ces événements. Et quant à moi, les naissances aujourd'hui, eh bien, il n'y en a que deux. D'abord, celle de, Pierre Séguier, né le 28 mai 1588 à Paris et mort le 28 janvier 1672 dans la même ville. Il appartient à une grande famille de magistrats. Il acquiert d'abord la charge de président à Mortier au Parlement de Paris, c'est-à-dire qu'il est le magistrat principal du Parlement. Il est nommé garde des Sceaux par Louis XIII en 1633, puis chancelier de France en 1635. Résolument fidèle à la monarchie, il se ménage une longue carrière à travers les vicissitudes de la cour, même s'il lui arrive de s'opposer à Richelieu. Il participe à la création de l'Académie française et c'est chez lui que se tiennent les premières réunions. Lui-même en deviendra membre et protecteur après la mort de Richelieu. Le magistrat instruit le procès de 5 mars, coupable de conspiration contre Richelieu. Lors de la fronde, Mazarin doit lui enlever brièvement la garde des Sceaux pour complaire aux rebelles. Après la prise de pouvoir de Louis XIV, Pierre Séguier, s'instruit avec partialité le procès de Nicolas Fouquet en 1661. Enfin, deuxième naissance, William Pitt le Jeune, né le 28 mai 1759 et mort le 23 janvier 1806 à Londres. En 1783, le roi d'Angleterre demande à un jeune homme de 24 ans, William Pitt the Younger, donc le jeune, de former le gouvernement. Son père, qui fut aussi Premier ministre, s'était illustré en enlevant Québec à la France. Le second Pitt lutte contre la traite des Noirs avec son ami William Wilberforce et tente d'émanciper les catholiques irlandais. Quand débute la Révolution française, il n'y voit d'abord que des avantages pour son pays. Mais en 1793, il ne tolère pas l'annexion par les Français du port d'Anvers, par où transite une grande partie des exportations britanniques. Sa détermination à briser la France révolutionnaire est dès lors totale. Il pressure ses concitoyens pour financer les pays coalisés contre la France, notamment la Prusse et l'Autriche. En ce qui concerne les décès, on n'en a pas beaucoup, on en a deux aussi. D'abord celle de Henri Grégoire, le 4 décembre 1750, il naît, et le 28 mai 1830, il meurt. Et enfin, le décès le plus notable, c'est celui d'Édouard VIII, né le 23 juin 1894 à Londres et mort le 28 mai 1972 à Neuilly-sur-Seine. Étonnant destin que celui d'Édouard VIII, plus connu aujourd'hui sous le nom de duc de Windsor. De son arrière-grand-mère Victoria à sa nièce Élisabeth II, en passant par son grand-père Édouard VII, son père Georges V, lui-même et son frère Georges VI, il n'aura connu pas moins de 6 souverains anglais. C'est lui, il me semble, qui va démissionner, entre guillemets, pour aller...
se marier avec une actrice américaine.
Américaine, tout à fait, que je ne me souviens plus de son nom.
Je ne sais plus.
Mais c'était une actrice visiblement superbe.
C'est ça, il y avait des scandales parce qu'elle était déjà divorcée 2 fois. Ouais. Et en plus, elle ne vient pas d'une famille notable, elle est américaine. Et le roi abdique pour ça, donc ça avait fait beaucoup de bruit. Ouais.
Mais c'est comme ça
Il y a un très beau film, pardon, je te coupe.
Oui, vas-y.
Sur justement son frère, Georges VI, donc le père d'Elisabeth II. Il était bègue et en fait ils ont fait un très beau film sur ses prises de parole. C'est, je cherche le nom.
Alors là je vais pas pouvoir te le dire.
Le discours d'un roi.
Peut-être.
C'est avec l'acteur qui joue Barbossa dans Pirates des Caraïbes.
Ah, purée.
Il est en fait, il est l'orthophoniste, je sais pas si c'est vraiment ça, du roi. Et du coup, il l'apprend à faire ses Geoffrey Rush, voilà. Et du coup, ouais, c'est bien le discours du roi. Donc, très, d'accord, très bon film sur ce moment de l'histoire, justement, avec toute... Il y a la Seconde Guerre mondiale qui commence, il y a la prise du pouvoir de ce nouveau roi qui débarque. Et il est bègue, et bref, regardez le film, le discours du roi.
Ok, super. Eh bien, nous regarderons ça avec attention, évidemment. Et pour terminer ce journal historique, nous souhaitons une bonne fête aux Germains. C'est la Saint-Germain aujourd'hui. Né près d'Autun à l'époque de Clovis, Germain devient évêque de Paris en 556. Il fonde l'abbaye Sainte-Croix-Saint-Vincent, qui sera plus tard rebaptisée Saint-Germain-des-Prés. Voilà, donc bonne fête à tous les Germains. Bravo à vous. C'est votre fête aujourd'hui. Sans transition, petite pause musicale. Nous nous écoutons pour commencer The Connection de Lost Years. Une petite musique électronique superbe. Et c'est maintenant, c'est tout de suite sur Radio Alpa.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur la percée de l'histoire où le générique a voulu faire une percée, hein, c'est le cas de le dire. Il a voulu démarrer, mais non, j'ai dit non. C'est la virgule, c'est à elle de prendre le relais maintenant. Et en parlant de relais, c'est à Salouane de parler dans le mic pour nous parler d'un monsieur qu'on a dans la caboche.
Eh oui, un inventeur de génie. Tout au long de l'histoire de l'humanité, des personnes mémorables ont apporté une contribution exceptionnelle à la science, bien sûr.
C'est de vous ?
Oui.
Eh ben, c'est bien, c'est joliment dit, en tout cas.
Et on en connaît beaucoup. Et si on réduit la focale à l'aéronautique et l'aviation, on a des noms qui nous viennent tout de suite à l'esprit. De Vinci, les frères Montgolfier, les frères Wright, Zeppelin, par exemple. Mais tout ça, c'est très bien, sauf que évidemment, l'histoire se fait un peu plus discrète sur certains noms et certains qui ont été des pionniers dans ce cas de l'aéronautique et de l'aviation. Et c'est le cas pour le scientifique, historien, poète, inventeur Abbas ibn Firnas. Alors, qui est cet homme ? Abbas ibn Firnas, c'est un personnage qui naît en 810. Donc, sous son nom complet, Abu al-Qasim Abbas ibn Firnas, dans les environs de la ville de Ronda, en Espagne. Ronda, c'est une ville qui se remarque tout de suite, parce qu'elle est construite sur deux falaises. Et en fait, il y a un pont qui relie les deux falaises, donc vous tapez Ronda sur Internet, c'est sûr que vous avez déjà vu cette ville. Donc, Abbas ibn Firnas naît dans cette ville de Ronda. On n'a pas beaucoup d'informations sur son enfance, à l'exception toutefois de la grande culture dont il est nourri, évidemment, puisque, on va le voir plus tard, il va s'intéresser à plusieurs disciplines, dans lesquelles il va commencer à exceller. Ce qui l'amène, bien évidemment, à s'installer dans la ville la plus riche, la plus influente, et le cœur culturel de l'époque, Cordoue. C'est dans cette cité qu'il s'illustre en tant que scientifique, inventeur, poète, philosophe, alchimiste, musicien, astrologue, à tel point qu'il va recevoir un surnom, celui de Hakim al-Andalus, le sage de l'Andalus. Il développe alors de manière particulière ses facettes de connaissances en contribuant de façon significative au progrès scientifique et artistique dans les cours de plusieurs émirs, d'abord Al-Hakam, puis ensuite Abdurrahman II et enfin Mohammed Ier. Dans les domaines des sciences, il fut le premier de toute la péninsule ibérique et probablement de tout l'Occident à utiliser les tables astronomiques de Sindhi Hind, d'origine hindoue qui, plus tard, se révélèrent essentielles dans le développement de la science européenne et furent étudiées dans les universités médiévales en tant que matière du quadrivium, ensemble des quatre sciences mathématiques de la théorie antique, donc la musique, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Il introduisit dans le monde occidental la technique de coupe du cristal de roche et développa même des procédures d'alchimie pour créer des cristaux à partir de différents minéraux. Il conçut pour l'émir de Cordoue une horloge anaphorique, un mécanisme complexe qui utilise l'eau comme liquide moteur, donc comme source d'énergie, et dont l'écoulement est stoppé ou autorisé par une série de vannes. Et cette horloge est capable de donner l'heure à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Il s'agissait d'un dispositif assez inhabituel à cette époque-là. Il met également au point la première sphère armillaire, plus connu sous le nom de astrolabe sphérique en Occident. C'est un instrument qui est utilisé pour réaliser des calculs et des observations astronomiques en orientant les cercles de l'objet selon le plan des cercles célestes. C'est notamment avec ces objets-là, avec cet astrolabe, que à la fin du XVe siècle, un certain Christophe Colomb pourra traverser l'Atlantique. Représentant la voûte céleste, il crée un planétarium articulé mécaniquement, qu'il construit dans sa résidence à Cordoue, qui constitue un exemple de ses connaissances astronomiques avancées. Cette création était également animée d'effets sonores et visuels qui simulaient les différents météores, la tempête, la foudre et le tonnerre. Mais son œuvre la plus célèbre, c'est dans le contexte de l'aéronautique. Abbas ibn Firnas est un référent extraordinaire en tant que précurseur du parachute. Et pour être la première personne à avoir conçu, construit et testé avec succès des engins qui pouvaient se maintenir dans les airs. Et ce, 600 ans avant Léonard de Vinci, 600 ans avant les dessins des machines volantes de Léonard de Vinci et plus de 1000 ans avant le célèbre vol des frères Wright. Il releva son premier défi aéronautique aux alentours de 852, en se jetant dans le vide du haut du minaret de la mosquée de Cordoue. Muni d'une grande toile en guise de parachute, personne n'avait jamais rien tenté de tel. Ou en tout cas, on n'en a aucune trace, avant cette date. Sa descente fut relativement rapide et son atterrissage plutôt brutal. Il s'en sortit avec plusieurs fractures, mais en ayant la ferme conviction que cela pouvait fonctionner.
Et aussi des factures à l'hôpital.
Les deux, factures et fractures. Cette tentative est considérée de manière générale comme la première utilisation d'un parachute dans l'histoire. C'est pas un grand succès, mais ça mérite d'être notifié.
Bah quand même.
Quelques années plus tard, donc aux alentours de 875, il conçoit un planeur à base de bois et de tissu fait en soie, décoré de plumes de différents oiseaux avec lesquels il s'élance des collines d'Aruzafa, situées à proximité de Cordoue. Persuadé que cette invention allait marcher, il avait convoqué des centaines de personnes à se placer tout au long de son parcours. De nombreux membres de la cour de l'émir Mohammed Ier, l'émir du califat d'Al-Andalus, étaient également présents. Profitant des courants chauds notamment, le vol fut soutenu et dura aux alentours d'une dizaine de minutes. Alors, on a beaucoup de chroniques de cette époque-là, et en fait, on nous donne plusieurs dates, mais à chaque fois, c'est aux alentours d'une dizaine de minutes. Malgré un atterrissage mouvementé, non seulement il survit, mais il devient, après cette expérience, le premier homme à voler sur un engin plus lourd que l'air. Y compris en se basant sur les chiffres les plus pessimistes concernant son vol, sa tentative fut très supérieure en temps et en distance à celle réalisée par les frères Wright en 1903. Le nom de Abbas ibn Furnas est aujourd'hui donné à des aéroports, évidemment, des ponts, plein de monuments publics, des ponts, des collines, des parcs, des avenues, des organismes scientifiques, mais c'est aussi le nom d'un cratère sur la Lune. Voilà.
C'est pas vrai.
Et si.
Oh bah alors là, tu m'apprends un truc. Et alors, grande question.
Oui.
Est-ce que toutes ces inventions sont encore visibles aujourd'hui?
Alors, c'est du coup sa machine volante.
Ouais.
On en a fait plusieurs restitutions. On a essayé de la refaire. On a encore des plans. Son horloge, je crois qu'on l'a toujours. J'ai pas cherché plus loin, j'avoue, là-dessus.
Ouais.
Le planétarium, il est détruit. Mais sinon, on a toujours ses textes. Donc on a toujours ses traités d'astronomie, on a ses traités de médecine, on a surtout ses traités de médecine parce qu'en fait, il a lié à la fois la physique-chimie et la médecine, et il a beaucoup travaillé sur l'optique,
ouais.
Et donc sur tout ce qui était maladie de vue, donc la myopie, l'hypermétrope, etc. Et il a commencé à fabriquer des verres, à voir justement comment fonctionnait l'œil, et après, ça va être repris par un autre polymathe qui, lui, va carrément créer la chambre noire, la caméra, et c'est ce qui va donner des années après nos appareils photo.
C'est fou, hein. Et ouais, tu disais que c'est un polymathe, donc c'est vraiment sa titulature.
Polymathe, c'est toutes les personnes qui, en fait, arrivent à un niveau dans différentes sciences, parce qu'on ne peut pas le qualifier juste d'astronome ou juste mathématicien. Et ça, c'est, on va dire, une constante pour plusieurs savants du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, aussi bien en Occident qu'en Orient. En fait, comme ils s'intéressaient aux sciences avec un S à la fin, on ne peut pas les qualifier d'un seul adjectif, donc on appelle ça des polymathes, plusieurs, et maths comme les mathématiques.
Bien sûr.
Voilà.
Eh bien, super. Merci beaucoup de nous avoir fait connaître ce brave monsieur qui a fait beaucoup de choses. Et en attendant, pour se remettre de toutes ces émotions, nous faisons une petite pause musicale. Ce sera maintenant Carpenter Brut, le Perve, pour ceux qui connaissent, incroyable son que je remets ici. Je crois qu'on l'a déjà mis, mais écoutez, deux fois c'est pas assez. C'est tout de suite et maintenant. We'll be right back.
Il a percé l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et nous nous sommes écoutés Carpenter Brut, le perve, superbe musique au passage. Et bien maintenant, c'est l'heure de la chronique locale et plus particulièrement sur une place que vous connaissez tous bien évidemment, la place, j'ai nommé, la place de la République. Mais, Salouane, le savais-tu ?
Oui.
La place de la République est nommée comme ça depuis seulement 1884. Alors,
d'accord.
Comment s'appelait la place de la République avant ?
Avant 1884 ?
Quatre propositions.
Je t'écoute.
Comme dans Qui veut gagner des millions ? La place des Halles, réponse A. La place Royale, réponse B. La place des Commerces, réponse C. La place Salouane Ier, réponse D.
Ah ! Alors, écoutez, en toute humilité, non, mais je partirais sur l'idée de si c'est République, avant c'était Royal, mais il y a aussi la place des commerces qui me tente. Les Halles, je ne vois pas des Halles placées là. Je sais qu'il y a la banque, je crois que c'est LCI, ça fait un moment qu'elle est placée sur cette place. Donc ouais, soit commerce, soit Royal.
Le suspense.
Vas-y, Royal, Place Royale.
Place Royale, c'est votre dernier mot ?
C'est mon ultime bafouille, Jean-Pierre.
Eh bien, écoutez, c'est une mauvaise réponse.
Ouais, je savais, c'est place.
C'était la Place des Halles.
Il y avait des... D'accord, très bien.
C'était la Place des Halles, eh oui. Alors, petit récapitulatif. On a trouvé, pendant les travaux du parking souterrain, sans doute, on a trouvé de nombreuses urnes funéraires et des poteries qui dataient d'abord de l'Antiquité.
Très bien.
Preuve de l'activité commerciale. Parce que s'il y a poterie, il y a, donc il y a forcément des gens qui la font. Ou qui les font, plutôt. Donc, il y avait une activité dans le secteur. Il n'y a pas eu d'urbanisation très forte pendant la période antique.
Oui.
Mais on peut penser qu'un faubourg était installé là, jusqu'au repli des habitations derrière l'enceinte gallo-romaine au IIIe siècle. Il faut savoir, si vous avez d'ailleurs vu l'exposition consacrée, donc c'était l'année dernière, sur l'enceinte gallo-romaine, vous avez pu voir que l'urbanisation du Mans, au 1er siècle, connaît une extension formidable et s'étale un peu finalement.
Oui.
On construit l'enceinte à partir du 3e siècle.
C'est ça.
Et on observe un repli des habitations derrière les enceintes. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui est en dehors de l'enceinte, eh bien, on n'y vit plus, tout simplement. Oui. On l'abandonne et on se réfugie derrière les murs. Sans doute, les historiens pensent que c'est les temps troublés qui font que les gens n'ont pas vraiment envie de se retrouver un matin sous le regard d'un énergumène enragé. Quoi.
Ça explique pourquoi
dommage.
On a construit l'enceinte.
Et voilà, c'est aussi pour ça. Donc, pas d'urbanisation intense. En 1229, les commerçants réinvestissent le site en fondant le marché du bourg Saint-Pierre. Alors, pourquoi on prend ce site ? Eh bien, il est pratique, car il y a beaucoup d'espace, contrairement aux places Saint-Pierre et Saint-Michel, qui sont situées à côté de la cathédrale. On a fait un petit reel dessus sur nos réseaux, n'hésitez pas. Mais les places sont vraiment très étroites, on ne peut pas y être beaucoup. Donc, on décide d'aller à l'extérieur des remparts, tout simplement. Et on prend ce site-là. Et d'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas trop loin de la ville non plus. Si jamais il y a un Anglais qui arrive, bon, on peut vite se manier pour...
Au feu le Godin.
Voilà, bon. Comme d'habitude, le premier lieu étant de se défendre et de se protéger, bien évidemment. Alors, en 1332, les premières halles sont construites. Et autour d'elles, les habitations et les hôtelleries commencent à s'agglomérer, fatalement. Après la guerre de Cent Ans, de nouvelles halles sont construites entre les actuelles rues Coutardy et Minimes. Donc, il va y avoir vraiment un site où il va y avoir plusieurs halles. Donc, en 1568, à l'époque moderne, les halles dépendent du domaine royal. Donc, c'est-à-dire que c'est le roi qui tire les bénéfices de tout ce qui rentre et qui sort dans les halles. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est comme le marché d'aujourd'hui. Non, non.
Oui, c'est différent.
Tout est très réglementé. Si vous vendez des tomates, par exemple, eh ben, ça doit être des tomates comme ça et pas autrement. Il n'y a pas la libre circulation des capitaux et des
c'est
personnes.
Pas l'espace Schengen.
Non, certainement pas. Et d'ailleurs, si vous voulez aller sur le marché du Mans, il faut payer votre place et, je crois, un impôt supplémentaire. Enfin, après, ça change en fonction des époques, mais avoir la place du commerce pour soi, généralement, c'est toujours un bon profit. C'est toujours un bon profit. Et c'est pour ça, que, d'ailleurs, que le roi se réserve bien toutes les bénéfices qui tire de ce marché et des halles. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on donne le nom, la place des halles, pour cette place, donc, parce qu'elle n'avait pas de nom avant. Et c'est à partir de 1568, du XVIe siècle, donc, qu'on la nomme place des halles. Mais le XVIe siècle, c'est d'ailleurs tourmenté.
Oui.
C'est un siècle très tourmenté, notamment par les guerres de religion, qui voit de plus en plus la place délaissée par les habitants et les commerçants. Préférence ralliée toujours aux vieilles places de la ville. Mmh. Donc au Moyen-Âge, on a une sortie et voyez que pendant les guerres de religion, on a une nouvelle fois une entrée dans l'enceinte de la ville. Il faut attendre le siècle suivant pour voir une concurrence, carrément, une concurrence naître entre les commerçants de la place des Halles et les commerçants de la place des Jacobins qui vont essayer de tirer toujours la couette sur eux, quoi, si vous voulez. Donc, mine de rien, la place des Halles devient un très grand pôle marchand qui entraîne l'installation de multiples auberges et hôtels. Donc là, c'est la dernière fois, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de repli supplémentaire sur les enceintes jusqu'à présent. Le poète Paul Scarron, d'ailleurs, immortalisera la place avec sa description de l'hôtel dit de la Biche dans son roman comique. C'est son nom, roman comique. En 1688, les Halles sont cédées à la ville du Mans. Voilà, ça y est. Ce n'est plus le domaine royal qui gère, c'est la municipalité. Le savais-tu et le saviez-vous? La place a été peinte. La place est sur une peinture, maintenant, aujourd'hui, qui existe. Une peinture de Jean Soriol dans son tableau « La bataille du Mans, 12 et 13 décembre 1793 ». Et d'ailleurs, cette peinture, si vous voulez la voir, tout à fait disponible, elle est au carré plan d'Agenais.
Eh oui.
On l'a vu récemment parce qu'on a vu l'exposition là qui est en cours et elle est en haut au premier étage.
C'est ça.
Voilà.
Très grand tableau.
Exactement. Et c'est un très grand tableau où là, il y a plein de morts, il y a plein de machins. Ben, c'est la bataille du Mans, quoi. Et on y aperçoit les Halles, donc, qui sont derrière, en arrière-plan. Et on voit un coin de la place, finalement. Ce n'est qu'au 19e siècle, il faudra attendre le 19e siècle pour que la place, telle qu'on la connaît, commence à ressembler à ce qu'on connaît, à la place actuelle. Donc, d'abord, avec les aménagements des artères principales de la place. La rue des Minimes est percée en 1811, la rue Gambetta en 1815, la rue Bolton en 1840, la rue du Port la même année, et enfin, le boulevard Levasseur en 1888. Les Halles en bois, qui sont toujours là, eh bien, elles disparaissent. Au profit d'une nouvelle halle en pierre, super grande, super belle. La ville a par ailleurs dû réaliser un emprunt de 100 000 francs, rendez-vous
c'est
compte,
énorme,
c'est énorme, pour financer l'édifice. Donc, fini les halles en bois, on va plutôt privilégier une halle, une seule, en pierre, et qui fait une rotonde. Donc, qui est
un bâtiment en dur, ouais.
Voilà. L'architecte n'a aucun scrupule à faire détruire les halles en bois, bien que les plus anciennes soient presque bicentenaires. Souvenez-vous, hein, elles datent quand même du 18e siècle.
La notion du patrimoine à l'époque...
On s'en fout. Voilà. Hein, c'est pour vous dire. Alors, les travaux s'achèvent en 1828 et provoquent le scandale des Manceaux. Apparemment,
pourquoi
on nous dit que vraiment personne n'aime les nouvelles halles.
C'est trop
tout
moche.
Le monde les trouve moches, tout le monde les trouve tout ce que vous voulez. C'est presque le hashtag saccage Le Mans. Si
la nouveauté fait peur.
Et c'est vraiment tout le 19e siècle où on va se plaindre continuellement de ces halles qui apparemment sont moches. Elles sont moches et personne n'en veut. En 1881, on veut faire de la place sur la place, donc, jeu de mots, en détruisant la halle. Donc, la fameuse
super
halle en pierre. Et les autres qui survivent à côté. Tiens. Et on veut, comme c'est d'habitude à la fin du 19e siècle, faire une grande fontaine sur cette nouvelle place. Et alors, cette grande fontaine, eh ben, elle n'aura pas lieu. Voilà. Elle ne sera pas construite. Le projet est avorté. on préfère ériger une statue à l'effigie du général Chanzy, mort en 1883, donc, et qui était général et surtout commandant en chef de la seconde armée de la Loire pendant la guerre de 70. Mmh. On érige la statue, et donc La Fontaine, il faudra attendre bien plus tard. Et sais-tu, deuxième question ce soir, sais-tu à quelle année la statue du général Chanzy se déplace vers la place Washington, comme aujourd'hui.
Là où elle est aujourd'hui.
Ouais.
Elle a été érigée quand ?
Elle a été érigée en 1880, puisqu'il est mort en 83, je pense que c'est en 80...
Ouais, fin du 19e.
Ouais, 84-85.
Après la Première Guerre mondiale, entre l'entre-deux guerres.
Tu veux que je te donne quatre dates ?
Vas-y.
Réponse A, 1930. Réponse B, 1950. Réponse C, 1970.
Ouais.
Réponse D, la semaine dernière.
C'était hier. Ouais, pour moi, ce serait l'entre-deux-guerres, donc 1930. Mais en même temps, 50. Est-ce que la place n'a pas été un parking pendant un moment ? Et du coup, les années 70, ils aimaient bien faire des parkings partout.
Parking City.
Ouais, je dirais ouais, 1930.
C'est votre dernier mot ?
C'est mon ultime bafouille.
Eh bien, écoutez, c'est une mauvaise réponse.
Ouais.
Encore une fois, c'est 1970.
Ouais, ouais.
Eh oui, elle est déplacée à ce moment-là. Et d'ailleurs, pourquoi on la déplace, cette statue ? Parce qu'elle est très volumineuse sur la place. Et comme on a un marché qui est à côté, eh ben, le guide Michelin, pendant ces années-là, avant ça, dans les années 60, dit de la place qu'elle est vraiment difficile à circuler, justement. Et c'est pour ça qu'on l'enlève. C'est pour ça que le marché est d'ailleurs transféré ailleurs. Et qu'on aura cette espèce de rond-point, en fait.
Oui.
C'est avant les travaux de 2008 qu'on a eu, ben c'était un espèce de rond-point où on pouvait circuler tout autour en voiture. Et même se garer à côté, quoi, sur le rond-point, si vous voulez. Donc, bon, c'est 1970.
Okay. Ben.
D'ailleurs, en parlant de noms, c'est en 1884, donc, que la place est renommée Place de la République.
Oui.
Voilà. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour avoir ce nom que nous connaissons si bien. Et voilà. Donc, voilà pour cette petite chronique sur la place de la...
Le cœur de ville.
De la République. Ouais, voilà, le cœur de ville. Et d'ailleurs, on a certaines cartes postales, notamment sur le poste, pour ceux qui l'ont vu. On a des cartes postales du début du XXe siècle où on voit le tram.
Oui, oui, oui. Il y avait
déjà
le tram,
passe sur la place. Et on voit que c'est très. Enfin, c'est tout piétonnier, pardon. Parce qu'il n'y a pas encore de voiture plus que ça. Donc, c'est très impressionnant. Donc, finalement, on est revenu à l'ancien temps.
Mais d'ailleurs, je me permets une petite.
Bien sûr.
Information supplémentaire, il y a un livre qui vient de sortir sur la visitation.
Ah oui ?
C'est fait par un Manceau. Je ne vais pas le retrouver, je le cherche en même temps que je parle, mais il y a un nouveau livre qui vient de sortir justement sur la visitation, et qui dit visitation, il dit Place de la République.
Ouais.
Donc il doit y avoir pas mal de... Ouais, voilà ça. Histoire de la visitation au Mans, 14 auteurs signent un ouvrage avec des documents inédits. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir de nouveaux visuels sur la place ou des informations aussi sur l'histoire de la place.
Ben oui, peut-être.
Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a aussi ce livre qui est sorti en avril.
Tu peux redire le titre ?
C'est La Visitation.
Voilà, juste ça.
Juste La Visitation.
Les auteurs, on les connaît ou... Ah ben non, c'est 14 auteurs.
Il y en a 14.
Ouais, bon. On va peut-être pas tous les citer. Disponible dans toutes les librairies, j'imagine ?
Oui. 13 autres contributeurs, sous sa direction. Mais la direction de qui ? De Franck Millot.
D'accord.
Je ne dis pas de bêtises.
Franck Millot, ça me dit quelque chose.
Oui, c'est
oui, bah oui, Franck Millot, bien sûr. Ça y est, ça me revient maintenant. Eh bien, merci. Merci, Salouane, pour cette recommandation littéraire. Et pour terminer tranquillement cette petite émission qui arrive à son terme, hein, d'ailleurs, nous allons nous écouter Night Moon. De Jeremiah Caine avec en feat Turbo Knight, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans cette émission. Encore une fois, un peu de musique électronique, c'est vraiment la musique électronique day aujourd'hui.
C'est...
Voilà, c'est alternatif finalement. C'est tout de suite, c'est maintenant.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Suite et fin de l'émission de la percée de l'histoire aujourd'hui pour ce 28 mai 2023. Et pour terminer en beauté, nous allons parler un petit peu des actualités, notamment, Salouane, si tu veux nous parler de l'actualité du manoir, comment ça se passe?
Oui, ce fameux logis du XIIIe siècle.
Bien sûr.
Alors,
où ça déjà?
À Agnières-sur-Vègre, 72 430, la Sarthe.
J'avais oublié.
Je triche, je prends le programme parce que...
Il triche.
Comme ça, au moins, j'aurai toutes les informations. Déjà, vous avez loupé.
Voilà,
on va commencer parce que vous avez manqué.
Ça, c'est bien. Ça c'est bien, très marketing. Ça.
Vous avez manqué un énorme, un merveilleux, un magnifique, un incroyable, incommensurable week-end. Un rendez-vous du Moyen-Âge qui avait lieu du coup samedi et dimanche, qui viennent de passer, avec les Milites Paganses qui étaient là pour les bâtisseurs. Ils ont un projet de construction d'une maison du XIIe siècle sur l'archéosite de Pont-Croix dans le Finistère. Et donc, ils ont commencé à faire l'ossature de la maison. C'est une énorme maison avec une abside derrière. Et donc, ils avaient ramené une partie de ce chantier au manoir, et le travail du bois notamment. Donc, ils ont fait des poutres en bois, ils ont fendu des troncs pour en faire des planches. Il y a eu tout ce qui est, évidemment, qui dit maison au Moyen-Âge, dit maison à pans de bois. Donc, ils ont vraiment construit un mur avec du torchis, le clayonnage, etc. Il y avait de la maçonnerie. Donc, si vous avez loupé, mais que le sujet vous intéresse, allez sur les différents réseaux. Donc, Milites Paganses, pour le nom de la compagnie, et Pont-Croix 1358 pour l'archéosite. Allez le visiter si vous avez l'occasion. Et du coup, les événements qui arrivent, il y a une conférence. Ça aussi, c'est un sujet qui est très, très important, qui tient beaucoup... au cœur de l'équipe du manoir et puis du village complet d'Agnières. C'est une conférence qui est faite par Géraldine Frey sur les restaurations des peintures murales dans l'église. Et Géraldine Frey s'occupe justement de ces restaurations. Elle est diplômée de l'école du Louvre et de l'Institut National du Patrimoine, donc c'est pas n'importe qui. Et en fait, pendant ces restaurations, donc l'église d'Agnières, c'est une église qui... on va dire qu'il y a deux grandes phases de peinture dans cette église. Une première 12e, donc 1150, et une autre plutôt 15e. C'est très très résumé. Et donc on en a découvert des nouvelles.
D'accord.
Donc il y a des nouveaux visages qui sont ressortis, il y a des nouveaux éléments qui sont ressortis, des choses, en fait, des éléments qu'on ne s'attend pas à voir dans une église.
Mais connu,
notamment, on a une scène de chasse mort, donc avec des archers, une sorte de chasse aux fauves, aux léopards, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça fait dans une église? Et du coup, il y a cette conférence qui reviendra du coup sur toutes ces nouveautés dans les peintures murales de l'église d'Agnières. Et puis, prochain rendez-vous, ça va être les journées de l'archéologie, donc les 14 et 15 juin, si je ne dis pas de bêtises.
Pour le week-end, donc, c'est 15 et 16 juin.
15 et 16 juin,
samedi,
ça doit être
samedi
ça.
Samedi 15.
Et donc là, ce sera des visites sur le terrain. En lien avec l'exposition, ce sera vraiment la dernière visite en lien avec l'exposition des manoirs médiévaux. Donc tout un parcours autour du d'Agnières-sur-Vègre, justement pour découvrir tous ces logis, tous ces manoirs, tous ces cœurs de seigneurie en fait, qui étaient vraiment des lieux très très importants. Et donc faire la visite de ces bâtiments qui aujourd'hui en fait sont privés. Donc on peut pas les visiter en dehors de ces visites qu'on organise là, ou alors faut vraiment s'organiser, faut batailler pendant X temps avec tel assaut, tel propriétaire, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a ces visites là, donc le 15 juin, sur réservation, tout est sur le site du manoir. Et après ça, du coup, l'exposition des manoirs, on range, elle partira sûrement vers d'autres horizons. Il y aura un catalogue, qui est en création. Catalogue d'expo qui est en création, donc il sera disponible peut-être cet été, peut-être je m'avance un peu, mais il sera disponible en tout cas soit fin de saison, soit cet été, soit fin de saison, soit la saison prochaine. Et puis après, on accueillera du coup les deux grandes expositions de l'été, donc sur le costume, une exposition donc sur le costume, la mode au Moyen-Âge de la Tour Jean sans peur, et une deuxième exposition où là c'est carrément des pièces, en fait c'est des couturiers, des artistes qui nous auront fait des costumes complet sur mannequin pour vraiment voir le détail, les couleurs, les fabrications des tissus. C'est des, Il y a des broderies à l'or, c'est fou furieux.
Wow.
Travail. Donc il y aura toute une nouvelle médiation, une nouvelle programmation liée à ces expositions et le gros campement de l'été, donc qui sera fin juillet, où là il y aura carrément le costume médiéval de 500 jusqu'à 1500 à peu près. Et il y aura de grands défilés de mode, il y aura plein d'animations pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Vraiment, tout le costume est mis en avant. Ça, ce sera pour l'été, donc à partir du 1er juillet. Mais là, on est encore sur les manoirs médiévaux, les journées de l'archéologie, et puis cette conférence qui arrive.
Voilà. Ok. Bon, un beau et gros programme.
Oui, ouais.
Là, il va y avoir des gens qui ne vont pas beaucoup dormir. Suivez mon regard. Même si vous ne pouvez pas le faire, techniquement. Bref. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit au revoir, parce que ça y est, c'est la fin de l'émission.
À bientôt.
Déjà, on se tient à bientôt, on se dit à la semaine prochaine, on sera quel jour?
Oui.
Le 4, oui, bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là.
Sauf événement particulier, mais...
Oui, sauf événement particulier. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine.
Portez-vous bien.
Portez-vous bien, n'attrapez pas froid, tout ça. Enfin, vous connaissez la musique. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut, bisous, au revoir.
Au revoir et à bientôt.
Et à bientôt.